RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters d'Éric de Flandre et de Sébastien Schillaci, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Jonathan McCarny. Jonathan, bonsoir.
Salut tout le monde.
Et avec Édouard G qui est à Lyon, évidemment, comme d'habitude. Salut Édouard.
Salut Gilbert, salut Jonathan, salut à tous.
L'évaluation après le match face à Lille et puis des débats comme toutes les semaines. Alors bon, évidemment, l'erreur d'arbitrage, est-ce qu'elle explique à elle seule la défaite lyonnaise? Parce que bon, tout le monde se concentre là-dessus, mais il y a peut-être d'autres choses à dire. Et puis, il faut qu'on parle de cette défense. Que se passe-t-il en défense? On verra si Édouard a des infos. Est-ce que Loukeba, Thiago Mendes, ce sera la défense des prochains matchs? Ça fait partie de nos débats du jour dans le podcast After Lyon. C'est parti.
Les bolides sont du côté de Lyon.
Eh oui, et ça c'est pour l'évaluation. Y a-t-il un taulier, Édouard, que tu veux mettre en avant? Je pense que tu vas me parler de Paqueta.
Oui, bah, Lucas Paqueta, c'est un petit peu le seul que je peux sortir en taulier parce que, bon, on en reparlera plus tard, mais il a marqué un but valable. Mais surtout, ce but, quelque part, il est à l'image de ce qu'il a quand même fait pendant le match, c'est-à-dire que, absence de renoncement, il a toujours fait des efforts, il a récupéré des ballons, il a retrouvé sa forme. On a l'impression qu'il est un peu délesté du poids du départ de Bruno Guimarães, de Juninho et Marcelo, là, tous les Brésiliens. Donc, voilà, pour un petit peu l'ensemble de ce match. Alors, au final, il aurait pu être décisif, mais le voilà quand même qui peut-être a retrouvé. On l'avait mis en flop plusieurs fois dernièrement. Là, moi, je trouve qu'on a retrouvé justement Lucas Paqueta de l'automne.
On est obligé d'avoir la même opinion, Doudou. Et puis, j'ajoute à ça que les deux caviars qu'il donne, ne serait-ce qu'à Moussa Dembélé et puis à Toko Ekambi, voilà, on a retrouvé le joueur qui est capable de créer de la magie sur une touche de balle, qui a une vision du jeu parfaite. Je pense aussi qu'il est beaucoup mieux physiquement par rapport aux derniers mois. Donc, on est obligé de mettre Paqueta taulier.
Exactement. Moi, je suis d'accord avec vous. Oui, parce qu'on a beaucoup de Casper quand même, notamment sur le plan offensif, à part lui.
Ah bah oui, non mais le problème non,
mais
c'est que
vrai.
Oui.
Bah, sinon Lyon aurait peut-être réussi à marquer d'ailleurs, c'est bien le problème. Donc Paqueta Tolia, attention, un petit boulet.
C'était un guignol.
Voilà.
Bah c'est facile aussi, Thiago Mendes.
Alors là...
Pour la glissade là
Pour l'ensemble de son œuvre.
Bon...
Je trouve qu'il
Alors
n'est
moi,
pas sûr défensivement.
Enfin,
voilà, je ne peux pas continuer avec cette charnière-là.
On va en parler de la charnière tout à l'heure. Mais vas-y, Edouard, tu vas être surprenant, tu disais.
Eh oui, je crois que je vais être obligé de mettre Maxence Cacré.
Oh
bon, Edouard, non.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, ça m'a fait mal au cœur. J'ai pesé le pour et le contre. J'aurais pu mettre Tanguy Ndombele, j'aurais pu mettre aussi Thiago Mendes, mais j'aime bien. On a une exigence énorme par rapport à lui parce qu'il a fait tellement des matchs XXL. Franchement, c'est le premier match où il passe à travers depuis peut-être le début de l'année. Je trouve que voilà, son premier ballon perdu l'a mis un petit peu en travers. Après, il est pas aussi juste techniquement présent avec cette hargne. Il y a toujours un petit peu le temps de retard là où d'habitude il a toujours un temps d'avance. D'ailleurs, il est sorti assez rapidement dans le match.
60e,
Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'était pas content, bien évidemment, de sortir, mais pas content de sa performance. Et puis, ça illustre aussi, quand même, mine de rien, parce qu'on parle souvent de la Paqueta dépendance au niveau offensif, mais là, il y a quand même une Cacré, voire une Cacré Ndombélé dépendance au milieu, parce que hier, c'était criant. Je vous dis, dès les premières minutes, il n'y avait pas cette flamme du match de Nice. Et surtout, il n'y avait pas ce duo au milieu, là, qui est le pivot, l'équilibre un peu de toute cette équipe, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que je le mais vraiment, il a fallu que je me pince pour le mettre.
Tu m'étonnes. Bon. Bonjour. Moi, quitte à mettre des boulets, tout à l'heure, je parlais de Casper, mais je mettrais bien les mecs de devant. Hein.
Bah, Dembélé.
Ouais, Dembélé.
Et Lucas qui loupe, doit la mettre.
Des mélanges de boulets de Casper.
Bravo. Il doit mettre Lucas sur la patte lumineuse de Paqueta. Il a très peu pesé devant. Je ne vais pas trouver non plus qu'il a fait, encore une fois, un grand match. Hein.
Alors, ça illustre ça, pour compléter, les stats incroyables de cette rencontre qui remonte, on a vu ça avec Opta, qui remonte au match de janvier 2021. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une histoire toute récente hein, de l'OL, c'est problème d'efficacité. 20 tirs hier, 8 carrés, aucun but. 21 tirs. Ouais, parce que j'enlève le but refusé. Ouais. Mais bon, 20 ou 21, c'est énorme quoi, en fait. Mmh. Et d'une manière générale, alors je sais, Gilbert, Jonathan aussi, que les stades, vous aimez pas trop ça. Mais vous savez, ces fameux buts espérés par rapport aux occasions créées.
C'est un très bon indicateur, ça, Doudou. Voilà.
Et là,
ce qui est un bon indicateur, c'est plus les tirs cadrés que les... Parce que expected goals, excuse-moi, des fois, on me dit « Ah bon, ouais, regarde là !» Alors que moi, je suis pas d'accord avec la situation. Tu vois, tu peux pas tout mathématiser, tout modéliser, mon petit Jonathan.
Mais, ouais, mais les tirs cadrés, tu vois, si c'est oui, un non, tir mais... qui arrive dans la niche, qui est mou du genou et qui est à 60 mètres, bon...
Bah, alors, du coup, ça a été souvent ça hier. Parce ouais. que mine de rien, il n'y en a pas énormément des occasions, comme tu les dénommes là, les expected goals. Mais au total, il y a quand même une... Et c'est d'ailleurs l'équipe au niveau européen qui a le plus de déficit par rapport aux tirs, les occasions et les buts. Les buts. 34 buts. Et normalement, il devrait y avoir, normalement, hein, après le foot, bien évidemment, n'est pas une science exacte, mais 11 buts de plus. L'équipe de Lyon est l'équipe qui tire le plus et de façon cadré, alors loin du PSG bien évidemment, mais pas très loin de Rennes. Et voyez où Lyon est classé, donc ça confirme un peu les casse-pair au niveau de tes attaquants, et notamment Romain Fèvre, Tino Kadewere quand il est rentré, Moussa Dembélé, Okal Toko et Kambi, ben chacun ils sont à 50% de, un petit peu moins de 50% de réussite, de tir cadré même déjà dans leur tentative. Et pourtant on travaille ça du côté de l'OL à l'entraînement, mais voilà, il manque quelque chose. Et c'est pas forcément uniquement sur ce match hein, parce que la statistique que je viens de vous donner, c'est sur l'ensemble de l'année.
Mais de toute manière, le problème et le film de la saison lyonnaise, ça va être ça, c'est le manque d'efficacité et d'être plus tranchant dans les deux zones de vérité, que ce soit tout derrière et tout devant.
Oui, bah ça, alors, attends, on va parler de tout derrière dans quelques instants, parce qu'il faut qu'on parle de la défense centrale, mais d'abord il faut qu'on parle d'arbitrage dans nos débats tout de suite. Oui, puisque donc Pascal Garibian, le patron des arbitres, a battu sa coulpe, il s'est auto-flagellé, ce qui est rare, dans le Progrès, en disant oui, ce but aurait dû être accepté. Jean-Michel Aulas, on l'a senti, comment dirais-je, hier soir après le match, on va dire qu'il s'est retenu, Edouard.
Ouais, il s'est retenu. D'habitude, il s'arrête en zone mixte, vous savez, parce que là, ouais. On est revenu post-Covid, donc on est revenu à la zone mixte, donc on n'est pas très loin des vestiaires, et donc on est sur le chemin de sortie des joueurs et des dirigeants, et donc de Jean-Michel Aulas. Et puis là, il est passé rapidement, et l'air forcément renfrogné, l'air déçu, et puis l'air remonté, parce qu'en gros, il disait, oui, vous avez tous vu, c'est à vous de dire, me faites pas dire ce que je dois dire, ayez le courage de le dire, vous, les journalistes, parce que nous, on va encore nous retirer des points. Voilà la petite phrase qu'il a, les 8-10 secondes qu'il a lancées dans la zone mixte devant les caméras. Tout en marchant, hein, en n'étant pas vraiment en faisant une interview, mais voilà, il a lâché ce message.
Moi, j'aimerais bien savoir si du coup, il est toujours pour le VAR ou pas, parce que il était plutôt pour, me semble-t-il. Et là, le VAR qui réarbitre. Alors, ce qui est dingue dans l'explication de Garibian, ça c'est absolument incroyable, pardon, c'est que il dit oui, mais parce qu'en fait, donc Monsieur Lesage, qui était dans la VAR Room
la voiture, ouais.
À Paris, parce qu'il n'y a plus de voiture, dans le centre-ville de Paris quand même. Maintenant, ils ont trouvé un immeuble. En fait, on n'a pas montré la bonne image. Et Garibian dit, s'il avait montré la bonne image, Monsieur l'arbitre central, Monsieur Turpin, aurait vu que bon, le but était valable.
Oui. Mais
le problème c'est que ça laisse
sous-entendre qu'il l'avait donné valable hein.
Ça laisse sous-entendre qu'en fait s'il a pas montré la bonne quoi, il a pas voulu la montrer, c'est un problème de matos, c'est quoi l'histoire en fait?
Ça peut pas être tout simplement un problème d'incompétence, de cafouillage sur le moment. Moi, écoute, je pense que c'est un scandale hein. Évidemment le but aurait dû être accepté, après de là en faire toute une histoire, etc. Je pense que depuis l'instauration de la VAR, on a vu qu'il y avait des cafouillages à droite à gauche, qu'il y avait des situations totalement ubuesques quasiment chaque week-end, j'exagère à peine, et là c'en est une de plus. Donc voilà, malheureusement ça tombe sur Lyon, ça tombe sur un match où que Lyon, même si Lyon n'a pas été efficace, Lyon méritait de gagner parce que Lille n'a pas proposé grand chose et Lille marque sur sa seule occasion. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'en faire toute une histoire autour de Lyon? Autour de la VAR, oui, mais autour de Lyon, malheureusement, c'est sûr que ça tombe.
Alors après, Jonathan, il y a l'avare et il y a Clément Turpin. Voilà, c'est ce côté-là, parce que Clément Turpin est dans la même histoire, vous savez, du match du PSG le 19 septembre dernier, qui a beaucoup fait couler d'encre du côté de Lyon. Voilà, je ne sais pas s'il y aurait eu une telle polémique si c'était un autre situations.
Clément Turpin, tout le monde dit que c'est un bon arbitre, etc. Mais je pense que tous les supporters de clubs, et je peux parler par exemple de ceux de l'Olympique de Marseille, ont une dent contre lui, parce que plusieurs fois, il y a toujours des problèmes, des situations litigieuses. Il peut faire une série de bons matchs et puis faire une très grosse cagade après. Donc le débat de fond, c'est l'avare, le niveau de l'arbitrage français. Et là, sur la situation qui s'est passée, malheureusement, c'est Lyon qui trinque, mais c'est d'une injustice sans nom.
Et clairement, là, hier, le but était totalement valable.
Il n'y a même pas de discussion à avoir, Doudou.
Il n'y avait même pas de discussion à avoir, exactement. Il n'y avait même pas à aller voir le VAR. Et d'ailleurs, Jocelyn Gourvennec le reconnaissait. Voilà, pour une fois, ça tourne en notre faveur. Et puis, Peter Bosz, lui, a été assez vindicatif, hein, quand même. Ah, quand t'imagines. Il a dit, on parle du meilleur arbitre français. Et il a eu ce trait d'humour en disant, c'est pas le meilleur arbitre pour Lyon, quoi, en fait. Voilà, donc il était très remonté. Il a même utilisé le terme, c'est un scandale.
C'est pas le meilleur arbitre français tout court.
Bon, voilà pour cette histoire. On ne refera pas le match, hein, donc pendant comme ça. Parlons de la défense centrale, parce que c'est un sujet, tout de même, je pense qu'il va faire parler beaucoup à Lyon. Donc hier soir, Thiago Mendes, Luqueba. On le disait dans l'avant-match, bon, après tout, au mérite, ces dernières semaines, c'est pas un scandale de les voir et tout. Mais est-ce que ça peut durer maintenant? Parce que si ça dure, là, ça nécessite explication. Alors, Edouard, comment est-ce que tu le sens, toi?
Le problème, c'est qu'il a dépanné. On remet dans le contexte. Hein, il a dépanné à un moment où Sinali Diomandé, Jason Denayer, Jérôme Boateng étaient blessés. Ensuite, il y a eu l'exfiltration pendant une journée, de veille de match de Jérôme Boateng. Et puis, ça se trouve que sur le premier match qu'il a fait, il n'était pas trop mal, Thiago Mendes. Mais derrière, on a déjà bien vu, alors c'était face à Nice, que déjà, face à des attaquants puissants, en tout cas des gens puissants comme Seko Fofana à Lens, il avait quelques difficultés, d'où la question de savoir s'il était dans ce match-là, en sachant que Jason Denayer est apte. Il a passé par la case nationale 2 et que Jérôme Boateng était réintégré dans le groupe. Jérôme Boateng est resté sur le banc et Jason Denayer, lui, n'était même pas dans le groupe. Alors, j'arrive pas à savoir pour le moment si, parce qu'il est en fin de contrat au mois de juin, il ne veut pas prolonger, donc est-ce qu'il est placardisé ou est-ce qu'il y a un autre problème pour Jason Denayer. C'est ce qui se murmure, mais moi, personnellement, je n'ai pas cette information. Je ne sais pas. En tout cas,
j'avais cru comprendre qu'il avait déjà signé ailleurs et que du coup,
il y a des chances que ça se fasse comme ça. Qu'en fait.
Ouais, j'aimerais que beaucoup de clubs aient ce genre de comportement. Du coup, le joueur ne joue plus jusqu'à la fin de la saison. Après, ça peut être discutable. Mais écoute, on va pas, je le mettais comme boulet, mais je ne veux pas lui taper dessus, Thiago Mendes, parce que ce n'est pas son poste. Mais en l'occurrence, là, je pense qu'il faut quand même se remobiliser et se reconcentrer de la part de Peter Bosz sur un point. L'OL doit impérativement sauver les meubles d'ici la fin de la saison au classement. Et tu es obligé de faire avec les joueurs qui sont les meilleurs à leur poste. Donc, cette solution, elle n'est pas viable. Thiago Mendes n'est pas un défenseur central de métier. Tu l'as dit, face à des attaquants qui ont un peu de puissance, qui sont capables de se positionner justement entre les deux centraux lyonnais, il a beaucoup de mal dans les compensations, dans les déplacements, dans les alignements, et tu peux pas lui en vouloir. Donc il y a forcément une solution à trouver. Il y a une chose qui m'a échappé, Doudou, je te pose la question, c'est l'indisponibilité de Thiago Mendes, c'est de combien?
C'est juste, il a ressenti, tu sais, il s'est blessé lors de ce fameux match qui a duré 1 minute 51 fin novembre. Et là, il n'a pas rechuté, mais en tout cas, une nouvelle petite retardement, on va dire. Je ne pense pas que ça soit énorme. On n'a pas eu de communication officielle sur cet allongement de son absence.
Ouais. Bon, donc en fait, difficile de tirer des plans sur la comète, quoi, Edouard, pour conclure là-dessus.
Oui, sauf qu'il y en a un qui crève l'écran et qui est titulaire, c'est Luqueba. Reste à savoir si on en prend un deuxième. Et a priori, le prochain match, ça va être quand même à Lorient, vendredi. Ça risque quand même d'être Jérôme Boateng.
Ah, bon, à voir. Alors bon, après, il peut s'installer peut-être une petite rotation.
Non,
on est
que lundi.
Voilà.
Après, il peut y avoir beaucoup de choses.
Ouais. Il faut stabiliser la charnière parce que Luqueba est vraiment impressionnant. Et je trouve que n'importe quel suiveur de Ligue 1 serait impressionné par le niveau qu'il a pris cette première partie de saison, enfin cette saison-là. Mais je pense que même pour lui, pour son bien, pour son développement, pour continuer ses progrès, il y a besoin d'un peu de stabilité quant à la personne qui est alignée à ses côtés.
À suivre. Voilà pour l'actu lyonnaise du moment. On va laisser retomber aussi sur l'arbitrage. Mais je pense que si M. Garibian est intelligent, il remet pas Turpin pour arbitrer l'OL d'ici la fin de la saison.
Ah non.
Parce que souvent, ça se fait quand même, ça. Tu vois ?
Non, mais on se dit ouais. Il y a l'histoire du père de Turpin, c'est ça, qui porteur lyonnais.
Non, c'est qu'il est né, Clément Turpin est né à Oullins, dans la banlieue de Lyon, mais il a dû y rester. Alors, il n'y a pas de maternité à Oullins, c'est juste à côté, à Pierre-Bénite sûrement. Il a dû y rester très peu de temps dans sa jeunesse, quoi, en fait. Donc,
oui, depuis, mais même ça, tu sais, puis il y a des supporters technique. Un peu bébêtes, ça crée quand même un climat qui est moyen.
Oui, mais après, il ne peut pas enlever alors qu'il est en Bourgogne, il peut pas enlever ça.
C'est ça, c'est un peu ridicule.
C'est ridicule, mais à partir du moment où il fait des conneries comme il a fait là, bon, bah, forcément, ça, tu regardes, ça jette l'opprobre. Hein.
C'est fini pour aujourd'hui. Merci, Edouard. Merci, Jonathan.
Allez,
prochain
merci.
Podcast After Lyon la semaine prochaine.
RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.